À la veille du premier grand forum France Culture à la Sorbonne, auquel vous êtes évidemment chaleureusement conviés pour évoquer demain les relations de l'homme et de l'animal à partir de 10h, donc dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Ce vendredi, De la Fabrique revient sur l'actualité des recherches dans un autre grand lieu du savoir à Paris, le Collège de France. Dans un premier temps, nous recevrons Ethem Eldem qui donne son premier cours d'histoire turque et ottomane aujourd'hui à 14h après sa leçon inaugurale du 21 décembre dernier au Collège de France. Une leçon où il a pas mal bousculé les idées reçues que nous pouvions avoir sur les 19e et 20e siècles ottomans puis turcs. Et puis Bénédicte Savoie, professeur à ce même Collège de France d'histoire des patrimoines artistiques en Europe, sera avec nous au téléphone pour évoquer les débats liés aux restitutions patrimoniales ces temps-ci entre l'Europe et l'Afrique en particulier. Et enfin, le C'était à la une de ce vendredi propose un formidable texte sur les grèves de Carmaux en 1892, un texte signé Henri Rochefort et lu par Christophe Brault. Oron, une composition de Telly Poskan pour pouvoir nous introduire au sujet du jour, premier grand sujet, le cours que vous allez donner. Ethem Eldem, bonjour.
Bonjour.
Cet après-midi, donc au Collège de France, premier cours après votre leçon inaugurale du 21 décembre dernier, à cette chaire donc d'histoire turque et ottomane qui reprend exactement l'intitulé qui était celui du cours de Gilles Weinstein il y a quelques années. Gilles Weinstein qui a disparu, qui est malheureusement décédé il y a quelques temps. Et donc, il est assez rare au Collège de France que l'on reprenne exactement la terminologie et l'intitulé d'un cours. Généralement, un nouveau professeur vient avec dans ses bagages eh bien, des intitulés qui sont un peu différents de ses prédécesseurs. Ça n'est pas votre cas, Ethem Eldem.
Non, l'intitulé est le même. Le cours sera différent, toutefois. Mais bon, turc et ottoman, c'est quand même très général. Et ce sera surtout une approche très différente du point de vue de la périodisation, puisque je suis plutôt contemporaniste. Je travaille sur le 18e et en particulier sur le 19e. Gilles était 16e-iste. Mais j'ai conservé quand même le titre parce que c'est un titre général un peu fourre-tout qui permet de bouger dans un domaine qui est quand même très sous-représenté.
Alors, on a compris dès votre leçon inaugurale du 21 décembre combien vous alliez traiter de façon différente cette question de l'histoire turque et ottomane. Je rappelle que vous êtes depuis 30 ans enseignant à Boğaziçi, qui est donc une des grandes, sinon la plus grande université à Istanbul, que vous avez fait votre thèse avec Robert Mantrand à Aix-en-Provence. Vous l'avez soutenu en 1989 sur Istanbul et le commerce français au 18e siècle, que vous êtes spécialiste de l'histoire de la mort à l'Empire ottoman, que vous avez beaucoup travaillé sur des archives publiques, mais aussi sur des archives privées, comme celle de la Banque ottomane ou des fonds familiaux que vous aviez dans votre propre famille, ceux de Osman Hamdi Bey, et que vous avez une façon d'aborder l'histoire de l'Empire ottoman qui nous bouscule un peu, pourrait-on dire, Ethem Eldem, parce qu'on croit savoir des choses. Lorsqu'on apprend, on est très fier d'apprendre l'histoire de l'Empire ottoman au 19e siècle, ce mouvement lié avec si on a lu Henri Laurence en particulier, la percée de Bonaparte dans la campagne d'Égypte, les bouleversements qui sont liés avec la modernisation de cet espace géographique sous la ferveur et la percée très meurtrière des troupes révolutionnaires, puis ensuite au milieu du 19e siècle, ce moment qu'on appelle les Tanzimat. Et en fait, ce que vous nous dites dans votre leçon inaugurale, ce que vous avez dit le 21 décembre et ce qui va être le cœur de votre cours, c'est de bouleverser un peu ces idées reçues qui placent d'abord un empire quasi immobile et puis ensuite l'arrivée des modes ou des visions européennes qui bouleversent le cours des choses et puis ensuite une reprise en main. C'est plus complexe que cela, dites-vous, Étienne Heldem.
Tout est beaucoup plus complexe. Je crois que le Collège de France est une des institutions qui a bien prouvé que l'histoire bouscule toujours. Je crois que je ne suis pas le seul et je crois que toutes les histoires, tous les domaines historiques ont à peu près le même atavisme d'une tendance à créer une sorte de mythe que certains sont censés bousculer. Et je crois que c'est le but de certaines institutions comme le Collège de France justement de le faire. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment exceptionnel dans mon cas.
Non, ce qui est exceptionnel, c'est que il faut bien reconnaître qu'il y a des sphères géographiques sur lesquelles on connaît relativement peu de choses et que cette sphère géographique ottomane est assez peu connue du grand public en France et quand on avait des sortes de repères que l'on pouvait mettre sur une frise chronologique, on était assez content de se dire c'est comme ça. Voilà, il y a des bousculements, des changements et vous nous dites ces changements ils sont pas exactement à ces dates-là.
Déjà, ce qu'on appelle l'espace ottoman, comment le définir ? Ce n'est pas une unité, ce n'est pas un état-nation, c'est un empire à l'ancienne et par conséquent, parler du Yémen ottoman au 19e siècle ou parler des Balkans ottomans, c'est parler de deux animaux complètement différents. Et d'autant plus que l'histoire ottomane est très centrée sur Istanbul, sur les relations, et ça j'en suis partiellement responsable, sur les relations avec l'Occident. Donc c'est une histoire qui est tellement complexe qu'on a tendance à essayer de la résumer à quelque chose qui est compréhensible. Bon. On réalise que la plupart des idées que nous avons concernant la manière dont cet empire se transforme au XIXe siècle, elles sont très superficielles. Pourquoi ? D'abord parce que nous avons surtout travaillé à partir d'une documentation occidentale et que nous avons très peu de voix locales. Et quand je dis voix locale, ce ne sont pas que des voix turques. Et ça, c'est un des problèmes de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, les Turcs aujourd'hui veulent y voir un empire turc. Les Occidentaux, depuis le 15e siècle, y voient un empire turc aussi. Et là, bien sûr, c'est toute une variété, tout un éventail d'ethnies, de religions, de diversité qui passe à la trappe. Et ça, c'est un gros problème, parce que si vous lisez l'histoire ottomane, si vous regardez l'histoire ottomane du 19e siècle, par un angle grec, arménien, juif ou syrien, vous pouvez conjuguer ça selon les ethnies, selon les géographies, vous aurez une vision très différente de la chose. Et malheureusement, la vision que nous avons est essentiellement partagée entre une vision turque, turcocentrique et eurocentrique. Et ça, c'est extrêmement problématique.
Alors, prenons un exemple. Le premier exemple, c'est de dire, voilà un empire qui se trouve en difficulté à partir du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman, et qui va être fasciné par les fastes, le développement des fastes occidentaux, par exemple, lorsque on vient à Versailles ou ailleurs, on découvre des jardins et d'un seul coup, il y a des textes qui nous ont dit jusqu'alors qu'il y avait une sorte de fascination et d'impression de modernité d'un côté et de l'autre côté de régression. Vous dites, il faut peut-être un peu nuancer tout cela. Et MLDM, il peut y avoir de ce côté-là autant de turquerie qu'il y a dans l'autre sens, c'est-à-dire une sorte de francierie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, à la française.
Des franqueries.
Des franqueries, comme il y a des turqueries.
Absolument. Notamment au XVIIIe siècle. Parce que, bon, on a tendance à lire l'histoire à l'envers. On est tenté par la téléologie. On a vu la fin du film et on voudrait avoir un récit qui mène à cette fin logique.
Et par cette fin, ça serait la modernisation de la Turquie.
Oui, parce qu'elle a eu lieu. Et ça, c'était indéniable. Et par conséquent, si l'on construit le passé selon ce qu'on on veut voir arriver dans le futur ou dans un passé plus récent, on tombe dans la téléologie. Et ça, pour le XVIIIe siècle, c'est classique. C'est-à-dire que le moindre contact avec l'Occident est lu comme s'il préfigurait déjà cette fascination, cette émulation, cette imitation, ou même ce complexe d'infériorité face à l'Occident. Or, c'est très différent. Au XVIIIe siècle, il y a un dynamisme, il y a une modernité ottomane.
Interne.
Interne. La modernité n'est pas qu'occidentale. Mmh. Il y a des modernités, et encore une fois, le Collège de France est un des lieux où ça a été dit par des historiens. Il y a des modernités qui sont diverses. Il y en a qui ne survivront pas, et je crois que c'est un des drames de l'Empire ottoman, de voir que les dynamiques d'une certaine modernité, d'une certaine transformation interne au XVIIIe siècle, n'arriveront pas à survivre parce qu'elles seront mises en concurrence avec une autre modernité qui devient de plus en plus violente, de plus en plus prenante, de plus en plus arrogante. Et ça, c'est la modernité occidentale. Donc, effectivement, au XIXe siècle, vous avez une occidentalisation, du moins par le haut, qui touche les sphères les plus nanties et les plus puissantes de l'Empire ottoman. Mais pour le bas, on est vraiment incapable de savoir comment ça se passe, tant qu'on ne se lance pas dans une étude beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée de ce que pensent, de ce que disent les individus de ces couches sociales.
Et ça, pour le faire, vous êtes emprisonné, pourrait-on dire, en tant qu'historien et chercheur, et TMLDM, comme d'ailleurs tous ceux qui travaillent sur cette sphère géographique à cette époque-là, par des représentations. L'orientalisme d'un côté, mais aussi cette idée qu'il y aurait effectivement un esprit ou une vision turque du monde qui serait à préserver, à conserver, d'autant plus depuis quelques années, et en particulier depuis les deux dernières années, où vous dites que le travail historique est plus compliqué parce que on lit l'histoire et le passé ottoman à l'aune de ce que l'on veut voir advenir dans un avenir prochain.
Absolument. Et l'un des autres problèmes, c'est qu'on utilise une méthode et une théorie historique qui sont empruntées à l'Occident. Et par conséquent, on finit par poser des questions qui sont des questions occidentales. Et le défi, c'est de pouvoir interroger les sources, trouver des sources, mais les interroger selon des valeurs qui sont cohérente avec le contexte culturel de ces sources. Et ça, c'est très difficile parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Nous sommes nous-mêmes occidentalisés. C'est ça. En fait, je veux dire, vous connaissez l'histoire, ce qu'on dit pour l'histoire, que c'est une terre exotique et on ne sait pas comment les gens vivaient. Bon, dans un cas français, la langue n'ayant pas trop changé, avec une certaine continuité culturelle, on arrive quand même à avoir une certaine familiarité avec des textes du XVIe, voire même du Moyen-Âge. Dans le cas turc, c'est très différent. C'est-à-dire que, justement, à cause de l'occidentalisation. C'est-à-dire que les transformations radicales de la culture, de la haute culture, si vous voulez, de l'éducation, de ce que l'on appelle la science, au XIXe et au XXe siècle, a érigé une sorte de barrière entre notre conception du monde aujourd'hui et celle des Ottomans à l'époque. Et souvent, nous avons recours à des formules qui sont orientalisantes, c'est-à-dire des formules qui reposent sur une définition de l'ottoman, de l'oriental, comme un autre, quelqu'un d'essentiellement différent. Et c'est là qu'on rate la chance, justement, de leur donner une voix et surtout une certaine modernité interne.
Alors, ces sources, elles existent, vous les avez consultées en tant qu'historien, et en particulier des sources familiales du 19e siècle, mais aussi des sources de la Banque ottomane la fin du 19e siècle. Ces sources, elles existent et elles pourraient nous permettre de mieux comprendre quel est, disons, l'univers mental de ceux qui, en particulier de ceux qui dirigent, mais peut-être aussi de ceux qui sont dirigés par cet empire ottoman. Pourquoi est-ce que c'est pas possible, en l'occurrence, cet MLDN ?
Déjà, parce que les sources dont vous parlez, elles ne sont pas si abondantes que ça. Déjà, il faut se faire une raison. Il y a un type de source, par exemple, ce qu'on appelle les éco-documents, les documents autobiographiques. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y en a pas beaucoup, comparé à l'Europe. Bon, c'est pas une raison pour ne pas travailler sur d'autres sources qui seraient susceptibles. Tout est dans la question que l'on pose aux sources.
Les lettres, par exemple.
La correspondance. Pas très abondant, mais j'ai travaillé énormément sur les monuments funéraires, mmh. et l'épitaphe ottomane est en fait beaucoup plus parlante que l'épitaphe occidentale. Mmh. Et grâce aux épitaphes ottomanes, j'ai été capable de parler d'une modernité, d'une transformation des mentalités, d'une sécularisation, d'une laïcisation même, au XVIIIe siècle, indépendamment de toute influence occidentale. Mmh. Et pour ça, il fallait simplement se pencher sur un document, un type de document qui n'avait pas été utilisé dans ce contexte jusqu'ici. Il y en a d'autres. Pour les petits bourgeois de la fin du 19e siècle, les clients ou les employés de la banque ottomane, le défi, c'est de pouvoir traiter des informations qui sont sérielles, qui sont lourdes, chronophages, mais il faut se lancer là-dedans pour essayer de voir ce que fait le petit peuple. Et même ce petit peuple, ce ne sera pas le paysan, ce sera le petit bourgeois. Mais c'est un début, et surtout pour comprendre comment on vit ensemble dans un empire qui est pluriethnique et confessionnel. Mmh.
Alors, il y a cela, puis il y a aussi cette arrivée donc par fracas dont on parlait au tout début de notre discussion, et Temeldem, qui crée un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire commun dans cet espace ottoman. On va inventer des mots comme liberté, comme patrie, comme amour de la patrie. On va même inventer le mot de civilisation, medeniyet, je crois, c'est ce que vous disiez dans votre leçon au Collège de France le 21 décembre dernier. Et donc, on invente des nouveaux mots et d'une certaine façon, ces nouveaux mots font écran aux précédents ou aux références précédentes et nous servent à nous. Évidemment, européen de totem, parce que ça nous dit quelque chose. Ce sont des mots qui sont empruntés au vocabulaire politique européen, mais peut-être d'écran à tout le reste.
Souvent, ce sont de faux amis. C'est-à-dire que la plupart des termes qui ont été inventés au 19e siècle pour justement combler un vide politique, idéologique à travers l'occidentalisation, la plupart de ces mots sont des approximations de concepts occidentaux qui ont été plus ou moins digérés, plus ou moins assimilés dans un contexte ottoman.
Vous voulez dire qu'il peut y avoir malentendu?
Il y en a. Le terme adalet aujourd'hui, la justice, est un terme qui est extrêmement problématique parce que pour le Turc moyen, aujourd'hui, en politique, ça n'est pas vraiment conçu comme une justice égalitaire comme on l'aurait en démocratie, mais une justice équitable comme on l'aurait dans un système qui reste inégalitaire. Donc, et ça, c'est
un système musulman inégalitaire, par exemple.
Inégalitaire, impérial, qu'il soit musulman ou autre, un système où certaines personnes auraient un statut supérieur à d'autres, et tant que cela est reconnu et que les protégés, comme on appelait les non-musulmans, ne sont pas bafoués, leurs droits ne sont pas bafoués, on est dans une situation d'équité. Et par conséquent, c'est adil, c'est juste. Mais si vous êtes en démocratie et si vous faites l'amalgame entre ce genre de justice traditionnelle et une conception moderne, démocratique de la justice, dans ce cas-là, vous avez du mal à implémenter une véritable démocratie. Et je crois que c'est le cas en Turquie en ce moment.
C'est pour ça d'ailleurs que on a souvent mis des S à ces termes qui servaient de termes génériques. Les modernités plutôt que la modernité, les libertés plutôt que la liberté. C'était une façon aussi de tenir compte de cette difficulté.
C'est un flou artistique. Non, c'est problématique parce que en mettant un S, on ne résout pas le problème. Mais ça prouve qu'on n'arrive pas à définir telle ou telle version d'une chose que l'on sait être plus ou moins similaire, semblable, mais qui n'est pas identique.
Alors comme on avait une vision du progrès depuis au moins la Révolution française, qui était une flèche qui nous conduisait forcément vers un meilleur, même en passant par des moments extrêmement difficiles, on a voulu voir cela pour l'Empire ottoman. On partait d'un Empire ottoman qui était quasi immobile au XVIIIe siècle, qui découvrait la modernité grâce aux Européens et aux Occidentaux au XIXe siècle et qui allait progressivement vers Mustafa Kemal, vers la laïcité kémaliste et que tout cela nous conduisait forcément vers un avenir qui ne pouvait être que radieux. Or, évidemment, les derniers développements de la politique en Turquie nous montrent qu'il y a d'autres possibilités, en particulier l'AKP de M. Erdogan, qui était la semaine dernière à Paris pour rencontrer le président français, et que ces possibilités ont aussi leur racine dans un passé, qui est ce passé du XIXe siècle, et en particulier le règne d'Abdülhamid II, qui met fin justement à cette période des Tanzimats, cette période de modernité, de liberté, de constitutionnalisme dans les années 1870, et qui réouvre une autre période, donc beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus difficile, où l'État prend plus de place, dites-vous, Temeldem.
Oui, enfin l'État, il prend plus de place, mais il se vide aussi de ce que le Tanzimat avait essayer de créer, c'est-à-dire un état de droit.
Oui. Là, c'est un état personnel.
C'est un état.
Et clientéliste. Quand même.
C'est un état personnel, clientéliste. Il peut ne pas l'être, mais en tout cas, c'est un état qui est ouvert à toutes sortes de conquêtes. En Turquie aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs, c'est par exemple la confusion qui est faite couramment entre gouvernement et état. Et ça, je pense que ça vous dit énormément sur le fait que le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, à partir du moment où ils se sentent confortablement assis politiquement, électoralement, ils se voient le droit de conquérir l'État, d'acquérir l'État, de s'approprier l'État. Donc la limite qui, à mon avis, la frontière qui, à mon avis, est très importante entre gouvernement et État, avec une pérennité de l'État que vous n'avez pas dans les gouvernements, c'est quelque chose qui est plus ou moins ignoré dans le cas turc. Et je pense que effectivement, c'est quelque chose que je peux reprendre dans un contexte ottoman à partir de l'autocratie d'Abdülhamid II à partir des années 1880. Ce n'est pas la seule explication, mais j'y vois une continuité que j'arrive à lire dans la période unioniste des jeunes turcs pendant la Grande Guerre, pendant la période kémaliste, voire même pendant la période dite démocratique où c'est la tutelle de l'armée et du judiciaire qui mène en quelque sorte l'État selon des principes hérités de la République kémaliste.
Et donc là où on a voulu voir des ruptures, vous essayez de redonner des généalogies et peut-être même des continuités, Temelden.
C'est l'objectif de l'historien, parce qu'on est quand même tenté par une vision un peu plus coulante en quelque sorte de l'histoire. Parce que sinon, vous ne pouvez pas bâtir l'histoire uniquement sur des ruptures. Dans chaque régime, dans chaque transformation, vous voyez quand même des sources qui... et vous l'avez dit il y a un moment, ce qui nous a trompé en quelque sorte, c'est cette vision un peu angéliste, un peu boniste du progrès, que tout allait dans le bon sens. Et ça, je pense qu'on peut le dire de bien des pays en ce moment. Ce n'est pas que la Turquie. Franchement, je crois que en Europe, comme aux États-Unis, nous avons une sorte de tendance vers le populisme, le majoritarisme, des formes qui ont des relents des années 30. Des années difficiles. Donc il y a des continuités qui parfois peuvent ressurgir et qui parfois peuvent être plus ou moins comprimées. En Turquie, je vois beaucoup de continuités. Alors c'est pas seulement Abdülhamid, justement c'est là qu'on voit la continuité. Il y a dans le régime actuel beaucoup de kémalisme.
Contrairement à ce qu'on croit.
Contrairement à ce qu'on croit, parce que on se fixe sur un aspect du kémalisme qui est la laïcité, et on oublie que la laïcité kémaliste, elle est très cosmétique, c'est-à-dire que c'est une laïcité qui a été implantée une fois que les non-musulmans ont été éliminés. C'était une laïcité en fait qui n'avait qu'un objectif, c'est celui de neutraliser l'islam politique. Donc c'est pas vraiment de la laïcité, et on a vu que ça pouvait poser des problèmes de droit, le port du voile, etc. Donc tout cela, c'est une illusion en quelque sorte, parce qu'on a une tendance à vouloir lire un aspect de la transformation qui n'est pas forcément le plus profond.
D'autant que, comme on a inventé et traduit des termes occidentaux en turc dans les années 1850 pour pouvoir traduire ces volontés de modernisation de l'État ottoman, vous inventez vous-même des termes dans votre leçon inaugurale. Vous inventez trois termes que vous permettez d'offrir au public du Collège de France. Clioman, Cléopâtre et Clioré. Donc Clio avec la racine grecque, donc
la muse
grecque de l'histoire. Oui. Donc et également donc cette cliomanie que vous percevez dans l'histoire turque, cette cliopathie et cette clioret, est-ce que vous voulez nous définir ce que vous entendez par là?
Oui, alors ce sont des déformations de l'histoire en quelque sorte, ou des abus de l'histoire. Cliomanie, la folie de l'histoire. Cliopathie, la maladie de l'histoire, le mal historique en quelque sorte. Et puis clioret, une logorée historique en quelque sorte, où on abuse justement de l'usage que l'on fait de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise l'histoire en Turquie. Et ça,
c'est marrant parce que quand j'y pense, en vous écoutant au Collège de France, je me disais, bah oui, mais la France est un peu pareil, on essaie de parler d'histoire.
Oui, elle est passée par là, et je ne pense pas qu'elle soit encore vraiment très cléomane, quoique, bon, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont très similaires, mais dans le cas turc, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que, en tant qu'historien, en tant que professionnel, c'est que l'histoire soit mise au service de la politique et de l'idéologie. Moi, j'aime bien l'idée d'imaginer que l'histoire puisse ne servir à rien. C'est la définition du luxe et de l'érudition. Alors, si, bien sûr, on veut en tirer des conclusions, tant mieux. Mais sinon, la simple curiosité, à mon avis, justifie...
Le simple plaisir.
Ah oui, le plaisir, la curiosité, c'est très bien. Moi je serais pour l'éradication de l'histoire des programmes scolaires. Parce que, justement, quand vous...
Si vous dites ça, alors là, on va avoir du courrier. Allez.
Non, mais je le dis dans un cas turc. Je ne vais pas me mêler des programmes scolaires en France.
Ouais, la semaine prochaine, on va parler de l'enseignement de l'histoire, de la fabrique de l'histoire.
Non, mais justement, quand l'enseignement de l'histoire est mauvais et quand il est ouvert à des manipulations, il vaut mieux ne pas l'enseigner. Je pense que, et dans le cas turc, je serais content de voir l'histoire disparaître des collèges et des lycées et être réservée à des établissements d'enseignement supérieur.
Et la cléopathie, alors c'est quoi?
La cléopathie, c'est quand vous êtes malade d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire que vous adorez ou que vous prétendez adorer, en fait, vous rend malade. C'est-à-dire qu'elle vous rend malade de complexe, et le complexe d'infériorité en Turquie, historiquement, il est très présent. Toutes les références aujourd'hui, comme hier, à l'impérialisme occidental, l'orientalisme, tout en étant vrai jusqu'à un certain point, fonder sa perception de l'Occident, fonder sa perception de sa propre place dans le monde sur une sorte d'abus des autres, c'est une forme d'exploitation de l'histoire à des fins purement pathologiques, si vous voulez. Et bien sûr, c'est le négationnisme, c'est le fait de ne voir que ce que l'on veut voir et de refuser de voir ce que l'on devrait voir, ce que l'on devrait reconnaître. Et ça, bon, tout le monde pense au génocide arménien. Mais ce n'est pas que ça. Le négationnisme, il peut être dans les détails. Et en ce moment, en Turquie, le problème, si vous voulez, c'est que l'histoire n'est plus une question de patrimoine. C'est une arène politique où l'on se bat à coups de récits historiques.
Vous donniez quelques exemples dans votre leçon inaugurale qu'on peut réécouter sur le site du Collège de France et qui est tout à fait formidable, et TMLD. C'est l'usage des dates. Alors vous dites, ce sont des dates sans millésime. Alors oui. on a ça chez nous. On a la rue du 4 septembre.
Oui, il y a le 4 septembre.
Voilà. Bon. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de rues.
Non, il y en a pas beaucoup.
En dehors de Paris ou dans les autres villes de France qui ne donnent pas le millésime en question. Alors selon qu'on est le 19 ou le 29 mai, vous expliquez que des universités qui s'appellent l'université du 19 mai ou celle du 29 mai ne disent pas la même chose.
Absolument. Bon, c'est un exemple amusant si vous voulez, mais
pédagogique.
Pédagogique, bien sûr. Et il illustre bien une certaine perception de l'histoire. Si vous appelez une université l'université du 19 mai, c'est donc que tout le monde est censé savoir ce que le 19 mai représente. Ouais. De même le 29. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette différence de 10 jours, d'une décade, elle porte sur des idéologies extrêmement différentes. Le 19 mai 1919, c'est la reconquête de l'Anatolie par Mustafa Kemal, le futur Atatürk, tandis que le 29 mai, c'est 1453, c'est la conquête de Constantinople par les Ottomans. Donc c'est une date fétiche des éléments conservateurs, disons. Et les universités en question, je crois que la première a été fondée en 75, l'autre en 2000 et 2010, ce qui vous dit en gros ce que la politique représente pour l'idéologie en histoire.
Oui, alors, on disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir de temps en temps des rapport entre la façon dont on envisage l'histoire en Turquie aujourd'hui et en France également. Mais c'est vrai qu'on prévoit souvent les commémorations à l'avance en France, mais alors là, on prévoit les commémorations très en avance en Turquie.
Oui,
il y a des commémorations qui sont prévues pour 2053, donc
alors,
pour
2053,
le sixième centenaire de la chute de Constantinople.
C'est-à-dire qu'on fait rimer en quelque sorte le futur avec le passé. Et pour moi, c'est une preuve qu'on n'a pas vraiment une conception d'un futur indépendant du passé. Et ça, c'est c'est quand même assez navrant, puisque le futur devrait être justement inconnu, ce qui le rend extrêmement compliqué. Et on sait que, par exemple, la science-fiction va pêcher dans le passé les thèmes pour le futur, parce qu'on a du mal à imaginer le futur. Mais quand même, quand votre futur n'est qu'une sorte de reproduction du passé, je crois que ça en dit long sur votre incapacité à gérer la question du futur. Et par conséquent, oui, aujourd'hui, on parle de 2023 parce que ce sera le centenaire de la République, 2053, sixième centenaire de la prise de Constantinople, et 2071, tout ça pour ce siècle, 2071, c'est le millénaire de 1071, l'entrée des Turcs en Anatolie. Et quand la classe politique utilise ces dates pour des échéances dans le futur, je trouve que c'est quand même très, très inquiétant.
Alors, l'échéance future pour vous, c'est cet après-midi au Collège de France.
Deux heures, oui, effectivement.
Deux heures.
Le track, oui.
Pour votre premier cours.
Mon premier cours.
Après votre leçon inaugurale.
Oui.
Et on peut inviter nos auditeurs à soit, s'ils ne sont pas parisiens, vous regarder sur le site du Collège de France, soit vous écouter sur France Culture, puisque nous diffusons les cours du Collège de France également, soit également se rendre à ces cours, donc le vendredi après-midi.
Le vendredi après-midi, de 2h à 3h30.
Voilà, et soit vous rejoindre également pour le 22 mai prochain pour un colloque qui traitera de la question de l'archéologie, de l'histoire des collections entre Empire Ottoman et Europe. Et là, on se rapproche du sujet qu'on va traiter avec Bénédicte Savoie dans un instant, c'est-à-dire la question de la collection d'œuvres d'art comme lieu interrogeable par l'historien.
La collection, le musée et les droits de certaines nations sur les objets. Donc c'est un sujet extrêmement riche et c'est un sujet qui permet de mesurer cette transformation de l'Empire ottoman d'une manière tout à fait différente mais très intéressante. Et c'est en ce moment mon dada puisque je travaille énormément sur l'archéologie et sur l'histoire des collections dans un contexte ottoman.
Eh bien restez avec nous dans un instant. Nous avons Bénédicte Savoie avec nous pour parler des restitutions patrimoniales.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Bonjour Bénédicte Savoie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au téléphone depuis Berlin, puisque vous vivez, comme d'ailleurs était Meldem, entre Paris et Berlin, comme lui entre Paris et Istanbul, puisque les nouvelles chaires qui ont été imaginées au Collège de France permettent aux professeurs d'être à la fois présents dans la ville de Paris pour leurs cours, mais également dans une université où ils travaillent habituellement. Anne Fleury, notre réalisatrice, a fait un clin d'œil. Le morceau que nous entendons, c'est Miles Davis en 1965 avec son quintet qui joue Nefertiti sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que Nefertiti fait partie de ces œuvres qui sont réclamées par les pays qui les ont vues naître, en l'occurrence, à savoir l'Égypte?
Le buste de Nefertiti, qui est à Berlin depuis les années 1912-13, avant la Première Guerre mondiale, a été réclamé depuis les années 20. Par d'abord la France qui représentait l'Égypte, puis par l'Égypte. Oui, elle est réclamée par intermittence en ce moment. Il me semble que ça ne fait pas actualité ici en tout cas.
Et alors, vous travaillez sur ces questions donc au Collège de France de ce patrimoine artistique qui est débattu, discuté de façon très vive entre pays et de plus en plus vive puisque c'était au mois de novembre dernier, lors de son voyage à Ouagadougou, le 28 novembre dernier. Dans son grand discours à l'université de Ouagadougou, Emmanuel Macron, le président français, a déclaré qu'il y aurait la possibilité, disait-il, je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire, qu'il y avait donc, il voulait d'ici 5 ans les conditions pour que soient réunies ces conditions pour des restitutions temporaires ou définitives archives du patrimoine africain en Afrique, ce qui est une véritable nouvelle. Et vous écrivez un article dans Le Monde cet après-midi, dans Le Monde Idée, sur ce thème, en expliquant qu'il y a là une véritable révolution, dites-vous, vous qui êtes spécialiste depuis au moins les travaux que vous avez menés sur Napoléon et les prises de guerre de Napoléon pendant les guerres napoléoniennes, de ces questions de trophées, de ce que vous appelez translocation patrimoniale, Bénédicte Savoie.
Oui, en effet, c'est une révolution. On peut dire presque que pour beaucoup d'acteurs, c'est le discours à Ouagadougou et un moment où on a eu le sentiment que le ciel nous tombait sur la tête. En tout cas, pour beaucoup de différents côtés s'intéressent à ces questions, soit à l'université, soit parce qu'ils sont des activistes politiques, soit parce qu'ils sont conservateurs dans des musées. Donc c'était une nouvelle détonnante, qui marque un changement de paradigme dans les discours sur ces questions. Et oui, depuis plusieurs décennies ou même depuis plusieurs siècles, en France, on n'avait pas entendu de choses comme ça. Et ça se double, en fait. On avait déjà vu des hommes politiques ou des responsables politiques proposer des restitutions, comme tout le monde se souvient en France de la restitution de ce qu'on a appelé à ce moment-là les manuscrits coréens par Nicolas Sarkozy. Mais le deuxième coup de théâtre, cette fois, c'est que quelques jours après le discours de Ouagadougou, le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, abondait dans le sens de Emmanuel Macron. Il disait, oui, en effet, ça peut plus durer. Le patrimoine africain ne peut pas être seulement dans des musées européens ou américains. Il faut faire quelque chose, il faut changer les choses. Et ça, vraiment, ça fait boum.
Oui, c'était d'ailleurs l'occasion de vous retrouver au micro de Christine Ockrent dans une excellente émission d'Affaires étrangères sur France Culture le 23 décembre dernier, où vous dialoguez tous sur ces questions justement de restitution patrimoniale. Vous dites, Bénédicte Savoie, vous qui vous intéressez à ces questions de prise de guerre, mais de prise de guerre coloniale ou même de prise de guerre entre nations européennes au 18e ou au 19e siècle, de prise d'œuvres d'art, vous dites qu'il y a, vous n'avez connu, vous en tant que chercheuse, que des restitutions douloureuses ou arrachées de haute lutte, c'est-à-dire des conservateurs qui voulaient conserver les œuvres dans leur collection et que le pouvoir politique obligeait d'une certaine façon, avec beaucoup de vigueur, à rendre au pays possesseur au départ et créateur de ces œuvres d'art, et que cela, ça vous semble effectivement en train de changer, Bénédicte Savoie.
Enfin, ce serait beau si ça changeait, voilà. C'est-à-dire que les conservateurs et les musées aient dans leur ADN de conserver les œuvres, c'est absolument normal, et il faut le respecter, c'est la tradition de cette profession, et c'est ce qui la rend aussi très belle et très importante. Donc il faut brusquer personne dans ces histoires, mais en effet, les voix de ceux qui réclament, les voix multiples, parfois contradictoires, de ceux qui, dans l'histoire, ont pu réclamer des patrimoines perdus, dans des situations de guerre ou d'autres formes d'asymétrie. Ça peut être des asymétries économiques, des asymétries de savoir. Les uns savent et prennent, tandis que les autres ne savent pas encore qu'ils sont en train de laisser partir, etc. Mm-hmm. Tous ces contextes d'asymétrie suscitent souvent, 100 ans après ou 150 ans après, des demandes, des manifestations de manque, des désirs de retour qu'il faut prendre aussi au sérieux. C'est-à-dire que toutes les voix sont sérieuses, que ce sujet est un sujet qui concerne toute l'humanité, et qu'il semble là, pour la première fois, vous évoquiez l'émission remarquable et, de mon point de vue, presque étonnante de Christine Ockrent, où, pour la première fois, il semblait que les différentes voix, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'était à la fois des activistes politiques ou des représentants des communautés qui demandent ces œuvres, à la fois le droit, une juriste, et puis le musée lui-même. Tout le monde semblait être d'accord. Et pour moi, c'était vraiment nouveau, parce que d'habitude, sur ces questions-là, ça se passe, en effet, comme vous le rappeliez, dans la douleur, c'est-à-dire les uns contre les autres, très violents parfois même.
Et dans votre cours, les cours qui ont précédé votre élection au Collège de France, vous avez donné 4 cours sur ces questions de restitution patrimoniale et de translocation patrimoniale. On entendait dans la salle aux questions qui étaient posées, y compris par de très grands savants qui étaient présents dans la salle, cette idée qu'on ne pouvait pas rendre ces œuvres parce qu'elles seraient mal conservées dans les endroits où elles seraient conservées, en particulier, on imagine, en Afrique ou ailleurs. Et vous dites que, dans l'article que vous publiez ce soir dans Le Monde, lorsqu'à Waterloo, la France restitue à l'Europe les œuvres transférées à Paris sous la Révolution et l'Empire, eh bien, elle n'explique pas à ces pays, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne ou d'autres pays, la bonne manière de valoriser et de conserver leur collection. C'est-à-dire qu'il y a aussi là une vision très européano-centrée de cette idée qu'il faut conserver bien les collections et qu'il n'y a que les Européens qui savent bien conserver les collections, ou les Occidentaux en l'occurrence.
Oui, et là encore, les uns ont raison et les autres ont raison. Hein. On est vraiment dans des logiques assez complexes. En effet, les conditions qui existent dans d'autres pays, des pays qui parfois réclament, ou même parfois simplement des communautés, des villages, des villes qui réclament la restitution, n'ont pas des conditions de conservation comme les nôtres. Oui, c'est vrai. Ça peut être peut-être dangereux pour les œuvres réclamées, mais il faut faire avec, il faut en parler, il faut voir, il faut en tout cas pas imposer un modèle qui serait le modèle du musée climatisé qui existe en Europe depuis le XVIIIe siècle dans des régions où peut-être c'est pas le modèle qui convient en ce moment. Mais par ailleurs, évidemment, on peut pas créer un lien direct entre les années 1815 et maintenant. Les choses ont changé. Donc, en effet, Napoléon n'a pas expliqué au pape en lui rendant, ou la France n'a pas expliqué au Vatican comment conserver ses collections en 1815. Oui. Bon, voilà. Le seul exemple de restitution heureuse, bizarrement, c'est la restitution par l'URSS en 1900, dans les années 50, de ce qu'elle avait pris sur le territoire allemand nazi et qui est retourné à la RDA. Ça, c'était une restitution heureuse. Et peut-être que, évidemment, si le contexte de la guerre froide, etc., est complètement passé, peut-être qu'on peut apprendre quelque chose en allant voir comment ça s'est passé là.
Oui, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faudrait un peu de joie et de légèreté dans cette façon d'envisager les choses, ça ne soit pas immédiatement et constamment dramatisé, dites-vous. C'est difficile parce que il y a du politique, il y a du sensible, et dans vos cours au Collège de France, vous expliquez bien combien il y a de l'arrachement et de la douleur à voir partir une œuvre, ou du moins à l'avoir laissé partir et ne pas savoir envisager comment elle pourrait revenir, en l'occurrence, Bénédicte Savoie.
Oui, il faut une légèreté grave, à vrai dire, parce que ce sont des sujets, les œuvres d'art, parce qu'elles sont souvent des exemplaires uniques, parce que contrairement à nous autres êtres humains, elles survivent, elles vivent plus que 70 ou 80 ans, ces œuvres d'art, c'est des représentants de l'humanité, c'est des testaments, des témoins de la créativité humaine, etc. Donc, il ne faut pas les mettre en danger en étant trop rapide, en étant trop léger, en étant trop joyeux. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit, avec gravité, de trouver des solutions un peu plus justes que celles que nous avons eues en Europe jusqu'à maintenant, ou dans le monde occidental, un peu plus justes pour notre époque. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était encore juste de faire comme on fait. Mais aujourd'hui, au début du XXIe siècle, avec ces nouvelles générations qui arrivent je vois mes étudiants ici à Berlin, ça les intéresse beaucoup de savoir où sont fabriqués leurs t-shirts, d'où vient la viande qu'ils mangent, etc. Ils veulent pas non plus aller dans des musées en sachant que les œuvres ont été prises dans des... Enfin, en ne sachant pas exactement comment ces œuvres sont arrivées ici. Enfin, il y a une nouvelle conscience aussi des questions de provenance. Et cette nouvelle conscience aussi d'équitabilité, de commerce équitable, de musée équitable, elle est là et il faut la prendre en compte aussi, si on peut. En tout cas, il faut essayer. Et je trouve que si nous, on n'essaye pas, si ce n'est pas nous qui essayons, comment, qui va le faire et comment ? Il faut le faire avec sérieux.
Dialogue de deux professeurs récemment élus au Collège de France. Cet MLDM voulait intervenir sur ces questions, puisqu'il travaille aussi, on l'a dit à la fin de notre entretien tout à l'heure, sur l'archéologie et les musées d'archéologie dans l'espace ottoman. Et MLDM.
Le cas ottoman est particulièrement intéressant, puisqu'il est un peu en porte-à-faux. L'Empire ottoman a des demandes, enfin la Turquie aujourd'hui a des demandes de l'Occident, notamment d'objets qui ont été spoliés pendant le 19e et les 20e siècles, mais il est aussi possesseur d'objets qui proviennent d'anciennes provinces de l'Empire. Et par conséquent, il pourrait être accusé d'avoir fait exactement ce qu'il accuse l'Europe d'avoir fait. Donc, on ne s'en sort jamais. Les marbres d'Alguin, hein, ce sont les Ottomans qui les ont donnés au British Museum, et je taquine en général mes collègues grecs en disant que si restitution il y a, elle devrait être faite à la Turquie, puisque c'est elle qui les a cédés. Enfin, je rigole. Mais il y a aussi une question qui me travaille, c'est celle du fétichisme de l'objet. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une technologie qui nous permet de reproduire n'importe quel objet à la perfection. à la perfection. Et personne n'y verrait que du feu. Et ça, je pense que c'est intéressant à évoquer aussi, parce que ne serait-ce que le musée en lui-même est un lieu assez parfois rébarbatif, et c'est comme un mouroir pour des objets, etc. Donc il faudrait penser à cette possibilité aussi de la multiplication des objets, et par conséquent la défétichisation des œuvres uniques.
Vous en pensez quoi, Bénédicte Savoie, de cette question justement de la reproductibilité des œuvres d'art à l'âge de la, non plus de la mécanique comme du temps de Walter Benjamin, mais à l'âge de l'informatique et de la numérisation?
J'en pense d'abord que je suis toujours très heureuse d'entendre Edem Eldem parler, ou je suis très heureuse de lire son avis sur ces questions. Je me souviens d'un article extrêmement important qu'il avait écrit il y a quelques années dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, puisque l'Allemagne a aussi dans ses musées, et en particulier Berlin, des œuvres monumentales comme l'hôtel de Pergame qui viennent aussi de l'Empire ottoman. Et quand j'entends là à l'instant Edem aborder la question de l'authenticité, de la reproductibilité, etc., évidemment, ça donne envie de parler beaucoup, de se disputer, de pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec les possibilités de la copie. D'ailleurs, au 19e siècle, personne n'était ennuyé des copies en plâtre. Il y a des collections entières qui sont des moulages, Voilà, c'était bien au 19e siècle. Ça a changé après. Mais en tout cas, je suis pas d'accord avec personne n'y verrait que du feu, comme disait. Justement, il faut pas tromper sur la marchandise. Il faut dire les choses comme elles sont. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de très très bonne copie. Mais après, la question, c'est où on met, puisqu'on va pas défétichiser l'objet très très vite. C'est un très long processus et qui est une question culturelle énorme. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile, sans doute, de faire ça que de mettre des copies dans un musée. Mais après, la question, ce sera où on met les copies. Les mettons au Louvre, les mettons dans les pays africains. Et puis ensuite, enfin voilà, c'est un très long débat et il faudrait le mener dans un autre cadre. Mais ensuite, l'autre question, enfin, il me semble que dans le discours de Ouagadougou, et ce qui est vraiment important là, c'est que Stéphane Martin, le président du musée du Quai Branly, et Emmanuel Macron soulignent la spécificité du cas africain en disant l'Afrique est le seul continent qui n'a vraiment pratiquement plus rien chez lui, alors que les autres en ont tous encore un peu, en quelque sorte.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte Savoie. On vous lira ce soir dans le numéro du Monde qui sort ce soir. Je crois qu'il est déjà en ligne en partie. Donc, cet article que vous livrez en tant que professeur au Collège de France sur ces questions des restitutions patrimoniales. Merci à vous, Edem Eldem, d'être venu pour nous présenter vos travaux en cours et le cours que vous allez donner dès cet après-midi au Collège de France sur l'histoire turque et ottomane. Il est 9h53 sur France Culture. Avec un peu de retard, nous avons notre dernière séquence. C'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
L'intransigeant, 20 octobre 1892. Sous la terre et sur l'eau. Lisez les feuilles. Ce n'est plus Monsieur de Solages qui a expulsé Calvignac de la mine, c'est Calvignac qui a chassé Monsieur de Solages de la chambre. Le baron Reille et lui sont deux victimes en faveur desquelles on va peut-être nous demander d'ouvrir une souscription dans l'intransigeant. Ce qu'on néglige malheureusement de nous expliquer, c'est comment il se fait que ces exploités soient 12 ou 15 fois millionnaires, tandis que les ouvriers et leurs exploiteurs ont à peine une bouchée de pain à se mettre sous la dent. Depuis d'innombrables années, les patrons serrent sans pitié ni remords la vis à leurs salariés. Et quand ceux-ci se décident à se rebiffer, ceux-là prennent des attitudes de mignons aspirant au ciel et s'écrient douloureusement « Les ingrats, c'est à renoncer à faire le bien !» Mais si les mineurs avaient la naïveté de se laisser attendrir, il leur arriverait infailliblement ce qui s'est produit, par exemple, pour les pauvres pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, aujourd'hui retombés entre les mains de leurs infâmes armateurs, 100 fois plus misérablement bas que ne l'étaient les corvéables d'avant la Révolution. Ces pauvres gens, auprès desquels les pêcheurs d'Islande de Pierre Loti sont des richards et des rois de la mer, ont commis la déplorable faute d'aliéner la liberté de leur commerce et se sont laissés appointer par un syndicat de 40 propriétaires de barques qui les envoient tous les matins s'exposer à l'engloutissement et à la mort pour la somme de 77 francs par mois. Et la plupart d'entre eux ont 5, 6 ou 7 enfants. Il y a quelques années encore, ils étaient engagés par un patron de bateau qui partageait avec eux ses prises, en gardant une moitié pour lui et distribuant l'autre à son équipage. Les pêcheurs vendaient ainsi leurs poissons et gagnaient soit peu, soit beaucoup d'argent, selon que la journée avait été mauvaise ou bonne. Une année où la pêche avait donné d'assez maigres résultats, des naufrageurs vinrent insidieusement trouver les 10 000 marins du port de Boulogne et leur firent cette proposition. « Si vous voulez, au lieu de tabler constamment sur un aléa et de compter sur des coups de filet qui souvent ne vous amènent rien, vous signerez avec nous un engagement ferme et moyennant 100, 50 ou 200 francs par mois, que vous serez toujours sûr de trouver, vous irez travailler pour nous. » Et ils ajoutèrent par surcroît de sollicitude, « Nous vous achèterons vos barques et vos filets et vous n'aurez plus à vous occuper que de toucher vos appointements. » Les braves et innocents matelots donnèrent dans ce grossier panneau. Les deux premiers mois, les 150 francs furent exactement payés. Puis la bande noire, sous des prétextes quelconques, réduisit les gages d'abord à 125, ensuite à 100 francs, et enfin au chiffre actuel, c'est-à-dire 77 francs. Pas même 80, sans préjudice de quelques réductions nouvelles. Les 10 000 pêcheurs de Boulogne, ainsi volés et affamés, eux et leurs familles, formulèrent des réclamations énergiques et tentèrent même de se mettre en grève. C'est alors que leurs armateurs leur tinrent ce langage, à peu près identiquement le même que celui de la compagnie de Carmo à ses ouvriers. « Faites ce que vous voudrez, nous sommes maintenant assez riches pour vivre pendant un an au moins sur notre capital. Or, comme vous n'avez plus ni filet ni bateau, vous seriez, sous peine de mourir de faim, obligé de mettre bientôt les pouces. » Et ce n'est pas tout. Autrefois, les patrons de chaloupes, s'embarquant avec leurs hommes et courant les mêmes risques de mer, ne s'aventuraient que par des temps supportables. Aujourd'hui, les employés de la bande noire reçoivent, par les plus effroyables tempêtes, l'ordre de partir, leurs négriers n'ayant personnellement rien à craindre, puisqu'ils restent à terre. C'est à ce système d'assassinat prémédité et encouragé par le ministre de la Marine qu'on doit actuellement une énorme recrudescence dans les naufrages. Sous terre, comme à Carmo, sur l'eau comme à Boulogne, telle est cette magnifique organisation du patronat que le gouvernement ne manque jamais de défendre en toute occasion et pour laquelle le sang a coulé à fourmis. Henri Rochefort.
C'était à la une que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture grâce à Rétro News également, donc le site de presse de la BNF, une réalisation de Séverine Cassard, un texte dit par Christophe Brault. La semaine prochaine, nous traiterons de l'enseignement de l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la Fabrique de l'Histoire. Et demain, l'histoire continue avec Jean-Noël Jeannet et Concordance des Temps. Il reçoit François-Xavier Fauvel sur l'Afrique du Sud et le long espoir d'une unité. Puis rappelez-vous que demain, nous serons à la Sorbonne avec toutes les émissions de savoir de France Culture. Et en particulier demain matin à 10h, nous dialoguerons avec Michel Pastoureau, Éric Baraté et Béatrice Bougnol sur la question « Depuis quand défend-on les animaux ?»